John Locke, traité du gouvernement civil, chapitres 12 et 13. Chapitre 12. Du pouvoir législatif, exécutif et fédératif d'un État. 143. Le pouvoir législatif est celui qui a droit de régler comment les forces d'un État peuvent être employés pour la conservation de l'humanité et de ses membres. Mais, parce que ces lois, qui doivent être constamment exécutées, et dont la vertu doit toujours subsister, peuvent être faites en peu de temps, il n'est pas nécessaire que le pouvoir législatif soit toujours sur pied, n'ayant pas toujours des affaires qui l'occupent. Et, comme ce pourrait être une grande tentation pour la fragilité humaine, et pour ces personnes qui ont le pouvoir de faire des lois, d'avoir aussi entre leurs mains le pouvoir de les faire exécuter, dont elles pourraient se servir pour s'exempter elles-mêmes de l'obéissance due à ces lois qu'elles auraient faites, et être portées à ne se proposer, soit en les faisant, soit lorsqu'il s'agirait de les exécuter, que leur propre avantage, et à avoir des intérêts distincts et séparés des intérêts du reste de la communauté, et contraire à la fin de la société du gouvernement, c'est pour cette raison que dans les États bien réglés, où le bien public est considéré comme il doit être, le pouvoir législatif est remis entre les mains de diverses personnes qui, dûment assemblées, ont elles seules, ou conjointement avec d'autres, le pouvoir de faire des lois auxquelles, après qu'elles les ont faites, et qu'elles se sont séparées, elles sont elles-mêmes sujettes, ce qui est un motif nouveau et bien fort pour les engager à ne faire de loi que pour le bien public. 144. Mais, parce que les lois qui sont une fois et en peu de temps faites ont une vertu constante et durable qui oblige à les observer et à s'y soumettre continuellement, il est nécessaire qu'il y ait toujours quelque puissance sur pied qui fasse exécuter ces lois et qui conserve toute leur force. Et c'est ainsi que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif se trouvent souvent séparés. 145. Il y a un autre pouvoir dans chaque société qu'on peut appeler naturel, à cause qu'il répond au pouvoir que chaque homme a naturellement avant qu'il entre en société. Car, quoique dans un État les membres soient des personnes distinctes, qui ont toujours une certaine relation de l'une à l'autre, et qui, comme telles, sont gouvernées par les lois de leur société, dans cette relation pourtant qu'elles ont avec le reste du genre humain, elles composent un corps qui est toujours ainsi que chaque membre l'était auparavant dans l'état de nature. Tellement que les différends qui arrivent entre un homme d'une société et ceux qui n'en sont point doivent intéresser cette société-là, et une injure faite à un membre d'un corps politique engage tout le corps à en demander réparation. Ainsi, toute communauté est un corps qui est dans l'état de nature par rapport aux autres États ou aux personnes qui sont membres d'autres communautés. 146. C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de la guerre et de la paix, des ligues, des alliances, de tous les traités qui peuvent être faits avec toutes sortes de communautés et d'États. Ce droit peut être appelé, si l'on veut, droit ou pouvoir fédératif. Pourvu qu'on entende la chose, il est assez indifférent de quel mot on se serve pour l'exprimer. 147. Ces deux pouvoirs, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif, encore qu'ils soient réellement distincts en eux-mêmes, l'un comprenant l'exécution des lois positives de l'État, de laquelle on prend soin au-dedans de la société, l'autre, les soins qu'on prend, et certaines adresses dont on use pour ménager les intérêts de l'État au regard des gens de dehors et des autres sociétés. Cependant, il ne laisse pas d'être presque toujours joint. Pour ce qui regarde en particulier le pouvoir fédératif, ce pouvoir, soit qu'il soit bien ou mal exercé, est d'une grande conséquence à un État. Mais il est pourtant moins capable de se conformer à des lois antécédentes, stables et positives, que n'est le pouvoir exécutif. Et par cette raison, il doit être laissé à la prudence et à la sagesse de ceux qui en ont été revêtus, afin qu'ils le ménagent pour le bien public. En effet, les lois qui concernent les sujets entre eux, étant destinées à régler leurs actions, doivent précéder ces actions-là. Mais qu'y a-t-il à faire de semblable à l'égard des étrangers, sur les actions desquelles on ne saurait compter ni prétendre avoir aucune juridiction? Leurs sentiments, leurs desseins, leurs vues, leurs intérêts peuvent varier, et on est obligé de laisser la plus grande partie de ce qu'il y a à faire auprès d'eux à la prudence de ceux à qui l'on a remis le pouvoir fédératif, afin qu'ils emploient ce pouvoir et ménagent les choses avec le plus grand soin pour l'avantage de l'État. 148. Quoique, comme j'ai dit, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif de chaque société soient réellement distincts en eux-mêmes, ils se séparent néanmoins malaisément, et on ne les voit guère résider en un même temps dans des personnes différentes, car l'un et l'autre requérant pour être exercé les forces de la société, il est presque impossible de remettre les forces d'un État à différentes personnes qui ne soient pas subordonnées les unes aux autres. Que, si le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif sont remis entre les mains de personnes qui agissent séparément, les forces du corps politique seront sous de différents commandements, ce qui ne pourrait qu'attirer tôt ou tard des malheurs et la ruine à un État. Chapitre 13. De la subordination des pouvoirs de l'État. 149. Dans un État formé qui subsiste et se soutient, en demeurant appuyé sur les fondements, et qui agit conformément à sa nature, c'est-à-dire par rapport à la conservation de la société, il n'y a qu'un pouvoir suprême, qui est le pouvoir législatif, auquel tous les autres doivent être subordonnés. Mais cela n'empêche pas que le pouvoir législatif ayant été confié afin que ceux qui l'administreraient agissent pour certaines fins, le peuple ne se réserve toujours le pouvoir souverain d'abolir le gouvernement ou de le changer lorsqu'il voit que les conducteurs, en qui il avait mis tant de confiance, agissent d'une manière contraire à la fin pour laquelle ils avaient été revêtus d'autorité. Car tout le pouvoir qui est donné et confié en vue d'une fin, étant limité par cette fin-là, dès que cette fin vient à être négligée par les personnes qui ont reçu le pouvoir dont nous parlons, et qu'ils font des choses qui y sont directement opposées, la confiance qu'on avait mise en eux doit nécessairement cesser, et l'autorité qui leur avait été remise est dévolue au peuple, qui peut la placer de nouveau où il jugera à propos pour sa sûreté et pour son avantage. Ainsi, le peuple garde toujours le pouvoir souverain de se délivrer des entreprises de toutes sortes de méchants pour former des desseins contre les libertés et les propriétés des sujets. En effet, personne, ni aucune société d'hommes, ne pouvant remettre sa conservation et conséquemment tous les moyens qui la procurent à la volonté absolue et à la domination arbitraire de quelqu'un, quand même quelqu'un en aurait réduit d'autres à la triste condition de l'esclavage, il serait toujours en droit de maintenir et conserver ce dont il n'aurait point droit de se départir. Et, étant entré en société dans la vue de pouvoir mieux conserver leur personne et tout ce qui leur appartient en propre, ils auraient bien raison de se délivrer de ceux qui violeraient, qui renverseraient la loi fondamentale, sacrée et inviolable, sur laquelle serait appuyée la conservation de leur vie et de leurs biens. De sorte que le peuple doit être considéré à cet égard comme ayant toujours le pouvoir souverain, mais non toutefois comme exerçant toujours ce pouvoir, car il ne l'exerce pas, tandis que la forme de gouvernement qu'il a établie subsiste. C'est seulement lorsqu'elle est renversée par l'infraction des lois fondamentales sur lesquelles elle était appuyée. 150. Dans toutes les causes et dans toutes les occasions qui se présentent, le pouvoir législatif est le pouvoir souverain. Car ceux qui peuvent proposer des lois à d'autres doivent nécessairement leur être supérieurs. Et puisque l'autorité législative n'est l'autorité législative de la société politique que par le droit qu'elle a de faire des lois pour toutes les parties et pour tous les membres de la société, de prescrire des règlements pour leurs actions et de donner le pouvoir de punir exemplairement ceux qui les auraient enfreints, il est nécessaire que le pouvoir législatif soit souverain et que tous les autres pouvoirs des différents membres de l'État dérivent de lui et lui soient subordonnés. 151. Dans quelques États où l'assemblée de ceux qui ont le pouvoir législatif n'est pas toujours sur pied et où une seule personne est revêtue du pouvoir exécutif et a aussi sa part au législatif, cette personne peut être considérée en quelque manière comme souveraine. Elle est souveraine non en tant qu'en elle seule réside tout le pouvoir souverain de faire des lois, mais premièrement en tant qu'elle a en soi le pouvoir souverain de faire exécuter les lois, et que de ce pouvoir dérivent tous les différents pouvoirs subordonnés des magistrats, du moins la plupart. Et en second lieu, en tant qu'il n'y a aucun supérieur législatif au-dessus d'elle, ni égal à elle, et que l'on ne peut faire aucune loi sans son consentement. Cependant, il faut observer encore que, quoique les serments de fidélité lui soient prêtés, ils ne lui sont pas prêtés comme au législateur suprême, mais comme à celui qui a le pouvoir souverain de faire exécuter les lois faites par lui conjointement avec d'autres. La fidélité à laquelle on s'engage par les serments n'étant autre chose que l'obéissance que l'on promet de rendre conformément aux lois, il s'ensuit que, quand il y a à violer et à mépriser ces lois, il n'a plus droit d'exiger de l'obéissance et de rien commander, à cause qu'il ne peut prétendre à cela qu'en tant qu'il est une personne publique revêtue du pouvoir des lois et qui n'a droit d'agir que selon la volonté de la société qui est manifestée par les lois qui y sont établies. Tellement que, dès qu'il cesse d'agir selon ses lois et la volonté de l'État, et qu'il suit sa volonté particulière, il se dégrade par là lui-même et devient une personne privée, sans pouvoir et sans autorité. 152. Le pouvoir exécutif remis à une seule personne, qui a sa part aussi du pouvoir législatif, est visiblement subordonné et doit rendre compte à ce pouvoir législatif, lequel peut le changer et l'établir ailleurs comme il trouvera bon, en sorte que le pouvoir suprême exécutif ne consiste pas à être exempt de subordination, mais bien en ce que ceux qui en sont revêtus, ayant leur part du pouvoir législatif, n'ont point, au-dessus d'eux, un supérieur législatif distinct auquel ils soient subordonnés et tenus de rendre compte, qu'autant qu'ils se joignent à lui et lui donnent leur consentement, c'est-à-dire autant qu'ils le jugent à propos. Ce qui, certainement, est une subordination bien petite. Quant aux autres pouvoirs subordonnés d'un État, il n'est pas nécessaire que nous en parlions. comme ils sont multipliés en une infinité de manières, selon les différentes coutumes et les différentes constitutions des différents États, il est impossible d'entrer dans le détail de tous ces pouvoirs. Nous nous contenterons de dire, par rapport à notre sujet et à notre dessein, qu'aucun d'eux n'a aucune autorité qui doive s'étendre au-delà des bornes qui lui ont été prescrites par ceux qui l'ont donné, et qu'ils sont tous obligés de rendre compte à quelque pouvoir de l'État. 153. Il n'est pas nécessaire, ni à propos, que le pouvoir législatif soit toujours sur pied, mais il est absolument nécessaire que le pouvoir exécutif le soit, à cause qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire des lois, mais qu'il l'est toujours de faire exécuter celles qui ont été faites. Lorsque l'autorité législative a remis entre les mains de quelqu'un le pouvoir de faire exécuter les lois, elle a toujours le droit de le reprendre des mêmes mains s'il y en a un juste sujet, et de punir celui qui l'a administré mal et d'une manière contraire aux lois. Ce que nous disons par rapport au pouvoir exécutif se doit pareillement entendre du pouvoir fédératif. L'un et l'autre sont subordonnés au pouvoir législatif, lequel, ainsi qu'il a été montré, est la puissance suprême de l'État. Au reste, nous supposons que l'autorité législative réside dans une assemblée et dans plusieurs personnes, car si elle ne résidait que dans une seule personne, cette autorité ne pourrait qu'être sur pied perpétuellement, et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif se trouveraient toujours ensemble. Nous entendons donc parler de plusieurs personnes qui peuvent s'assembler et exercer le pouvoir législatif dans de certains temps prescrits, ou par la constitution originaire de cette assemblée, ou par son ajournement, ou bien dans un temps que ceux qui en sont membres auront choisi et marqué, s'ils n'ont point été ajournés pour aucun temps, ou s'il n'y a point d'autre voie par laquelle ils puissent s'assembler. Car le pouvoir souverain leur ayant été remis par le peuple, ce pouvoir réside toujours en eux, et ils sont en droit de l'exercer lorsqu'il leur plaît, à moins que par la constitution originaire de leur assemblée, certains temps aient été limités et marqués pour cela, ou que par un acte de leur puissance suprême, elle ait été ajournée pour un certain temps, dans lequel, dès qu'il est échu, ils ont droit de s'assembler, de délibérer et d'agir. 154. Si ceux qui exercent le pouvoir législatif, lequel représente le pouvoir du peuple, ou une partie d'eux, ont été élus par le peuple, pour s'assembler dans le temps qu'ils ont fait, et qu'ensuite ils retournent dans l'état ordinaire des sujets, et ne puissent plus avoir de part à l'autorité législative qu'en vertu d'une nouvelle élection. Le pouvoir d'élire en cette rencontre doit être exercé par le peuple, soit dans de certains temps précis et destinés à cela, ou lorsqu'il en est sollicité et averti. Et en ce dernier cas, le pouvoir de convoquer l'Assemblée réside ordinairement dans le pouvoir exécutif qui a une de ces deux limitations à l'égard du temps. L'une, que la constitution originaire de l'Assemblée demande qu'elle soit sur pied et agisse de temps en temps et dans certains temps précis. Le pouvoir exécutif n'a autre chose à faire qu'à publier des ordres afin qu'on élise les membres de l'Assemblée selon les formes accoutumées. L'autre, qu'on a laissé à la prudence de ceux qui ont le pouvoir exécutif, de convoquer l'Assemblée par une nouvelle élection, lorsque les conjonctures et les affaires publiques le requièrent, et qu'il est nécessaire de changer, réformer, abolir quelque chose de ce qui s'était fait et observé auparavant, ou de remédier à quelques inconvénients fâcheux, et de prévenir des malheurs qui menacent le peuple. 155. On peut demander, ici, qu'est-ce qu'on devrait faire
Si ceux qui sont revêtus du pouvoir exécutif, ayant entre les mains toutes les forces de l'État, se servaient de ces forces pour empêcher que ceux à qui appartient le pouvoir législatif ne s'assemblassent et n'agissent, lorsque la constitution originaire de leur assemblée ou les nécessités publiques le requéraient. Je réponds que ceux qui ont le pouvoir exécutif, agissant comme il vient d'être dit, sans en avoir reçu d'autorité, d'une manière contraire à la confiance qu'on a mise en eux, sont dans l'état de guerre avec le peuple qui a droit de rétablir l'assemblée qui le représente et de la remettre dans l'exercice du pouvoir législatif. Car, ayant établi cette assemblée et l'ayant destinée à exercer le pouvoir de faire des lois dans de certains temps marqués ou lorsqu'il est nécessaire, si elle vient à être empêchée par la force de faire ce qui est si nécessaire à la société et en quoi la sûreté et la conservation du peuple consistent, le peuple a droit de lever cet obstacle par la force. Dans toutes sortes d'états et de conditions, le véritable remède qu'on puisse employer contre la force sans autorité, c'est d'y opposer la force. Celui qui use de la force sans autorité se met par là dans un état de guerre comme étant l'agresseur et s'expose à être traité de la manière qu'il voulait traiter les autres.
156. Le pouvoir de convoquer l'assemblée législative, lequel réside dans celui qui a le pouvoir exécutif, ne donne point de supériorité au pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. Il n'est fondé que sur la confiance qu'on a mise en lui à l'égard du salut et de l'avantage du peuple. L'incertitude et le changement ordinaire des affaires humaines, empêchant qu'on ait pu prescrire, d'une manière utile, le temps des assemblées qui exercent le pouvoir législatif. En effet, il n'est pas possible que les premiers instituteurs des sociétés aient si bien prévu les choses et aient été si maîtres des événements futurs qu'ils aient pu fixer un temps juste et précis pour les assemblées du pouvoir législatif et pour leur durée, en sorte que ce temps répondit aux nécessités de l'État. Le meilleur remède qu'on ait pu trouver en cette occasion, c'est sans doute de s'être remis à la prudence de quelqu'un qui fut toujours présent et en action, et dont l'emploi consista à veiller sans cesse pour le bien public.
156. Des assemblées du pouvoir législatif, perpétuelles, fréquentes, longues sans nécessité, ne pourraient qu'être à charge au peuple, et que produire, avec le temps, des inconvénients dangereux. Mais aussi, des affaires soudaines, imprévues, urgentes, peuvent quelquefois exiger l'assistance prompte de ces sortes d'assemblées. Si les membres du corps législatif différaient à s'assembler, cela pourrait causer un extrême préjudice à l'État. Et même, quelquefois, les affaires qui sont sur le tapis, dans les séances de ce corps, se trouvent si importantes et si difficiles que le temps qui aurait été limité pour la durée de l'assemblée serait trop court pour y pourvoir et y travailler comme il faudrait, et priverait la société de quelque avantage considérable qu'elle aurait pu retirer d'une mûre délibération. Que saurait-on faire donc de mieux pour empêcher que l'État ne soit exposé tôt ou tard à d'éminents périls, d'un côté ou d'autre, à cause des intervalles et des périodes de temps fixés et réglés pour les assemblées du pouvoir législatif? Que saurait-on, dis-je, faire de mieux que de remettre la chose avec confiance à la prudence de quelqu'un qui, étant toujours en action et instruit de l'état des affaires publiques, peut se servir de sa prérogative pour le bien public? Et à qui pourrait-on se mieux confier, pour cela, qu'à celui à qui on a confié pour la même fin le pouvoir de faire exécuter les lois? Ainsi, si nous supposons que l'Assemblée législative n'a pas, par la Constitution originaire, un temps fixe et arrêté. Le pouvoir de la convoquer tombe naturellement entre les mains de celui qui a le pouvoir exécutif, ou comme ayant un pouvoir arbitraire, un pouvoir qu'il ait le droit d'exercer selon son plaisir, mais comme tenant son pouvoir de gens qui le lui ont remis, dans l'assurance qu'ils ne l'emploieraient que pour le bien public, selon que les conjonctures et les affaires de l'État le demanderaient. Du reste, il n'est pas de mon sujet, ici, d'examiner si les périodes des temps fixés et réglés pour les assemblées législatives, ou la liberté laissée à un prince de les convoquer, ou peut-être le mélange de l'un et de l'autre, sont sujets à des inconvénients. Il suffit que je montre qu'encore que le pouvoir exécutif ait le privilège de convoquer et de dissoudre les conventions du pouvoir législatif, il ne s'ensuit point que le pouvoir exécutif soit supérieur au pouvoir législatif. 157. Les choses de ce monde sont exposées à tant de vicissitudes que rien ne demeure longtemps dans un même état. Les peuples, les richesses, le commerce, le pouvoir sont sujets à de grands changements. Plus puissantes et les plus florissantes villes tombent en ruine et deviennent des lieux désolés et abandonnés de tout le monde, pendant que d'autres, qui auparavant étaient déserts et affreux, deviennent des pays considérables, remplis de richesses et d'habitants. Mais les choses ne changent pas toujours de la même manière. En effet, souvent les intérêts particuliers conservent les coutumes et les privilèges lorsque les raisons qui les avaient établies ont cessé. Il est arrivé souvent aussi que dans les gouvernements où une partie de l'autorité législative représente le peuple et est choisie par le peuple, cette représentation, dans la suite du temps, ne s'est trouvée guère conforme aux raisons qu'il avait établies du commencement. Il est aisé de voir combien grandes peuvent être des absurdités dont serait suivie l'observation exacte des coutumes, qui ne se trouvent plus avoir de proportion avec les raisons qui les ont introduites. Il est aisé de voir cela si l'on considère que le simple nom d'une fameuse ville, dont il ne reste que quelques masures, au milieu desquelles il n'y a qu'une étable à moutons, et ne se trouve pour habitant qu'un berger, fait envoyer à la grande assemblée des législateurs autant de députés représentatifs que tout un comté, infiniment peuplé, puissant et riche, y en envoie. Les étrangers demeurent tous surpris de cela, et il n'y a personne qui ne confesse que la chose a besoin de remède. Cependant, il est très difficile d'y remédier, à cause que la constitution de l'autorité législative étant l'acte originaire et suprême de la société politique, lequel a précédé toutes les lois positives qui y ont été faites, et dépend entièrement du peuple, nul pouvoir inférieur n'a droit de l'altérer. D'ailleurs, le peuple, quand le pouvoir législatif est une fois établi, n'ayant point dans cette sorte de gouvernement dont il est question le pouvoir d'agir pendant que le gouvernement subsiste, on ne saurait trouver de remède à cet inconvénient. 158. Salus populi suprema lex. C'est une maxime si juste et si fondamentale que quiconque la suit ne peut jamais être en danger de s'égarer. C'est pourquoi, si le pouvoir exécutif, qui a le droit de convoquer l'Assemblée législative, observant plutôt la vraie proportion de l'Assemblée représentative que ce qui a coutume de se pratiquer lorsqu'il s'agit d'en faire élire les membres, règle, non suivant la coutume, mais suivant la droite raison, le nombre de ses membres, dans tous les lieux qui ont droit d'être distinctement représentés, et qu'il communique ce droit à une partie du peuple qui, quelque incorporée qu'elle fût, n'y avait nulle prétention, et qu'il le lui communique à cause des avantages que la société peut en retirer, on ne peut dire qu'un nouveau pouvoir législatif ait été établi, mais bien que l'ancien a été rétabli et qu'on a remédié au désordre que la succession des temps avait insensiblement et inévitablement introduit. En effet, l'intérêt, aussi bien que l'intention du peuple, étant d'avoir des députés qui le représentent d'une manière utile et avantageuse, quiconque agit conformément à cet intérêt et à cette intention doit être censé avoir le plus d'affection pour le peuple et le plus de zèle pour le gouvernement établi. Et ce qu'il fait ne saurait qu'être approuvé de tout le corps politique. La prérogative n'étant autre chose qu'un pouvoir qui a été remis entre les mains du prince afin qu'il pourvût au bien public, dans des cas qui dépendent de conjonctures et de circonstances imprévues et incertaines. Des lois fixes et inviolables ne sauraient sûrement servir de règle. Tout ce qui paraît manifestement être fait pour le bien du peuple et pour affermir le gouvernement sur ses fondements véritables est et sera toujours une prérogative juste. Le pouvoir d'ériger de nouvelles communautés, et par conséquent, des communautés qui ont besoin d'être représentées par des députés, suppose nécessairement qu'avec le temps, le nombre représentatif peut varier, et que ceux qui, auparavant, n'avaient pas droit d'en être, y peuvent ensuite avoir droit, et qu'au contraire, par les mêmes raisons et sur les mêmes fondements, ceux qui, auparavant, avaient droit d'être de ce nombre, peuvent n'y en avoir plus, étant devenus trop peu considérables pour pouvoir y prétendre. Ce n'est point le changement qu'on fait dans l'état présent des choses, que la corruption ou la décadence aura peut-être introduit, qui altère et détruit le gouvernement, mais bien ce qui tend à faire tort au peuple et à l'opprimer, et la distinction qu'on ferait des gens et des différents partis. En sorte qu'il y en eut un qui fut plus maltraité que l'autre et réduit dans une plus grande sujétion. Certes, tout ce qu'on ne peut regarder que comme avantageux à la société et au peuple en général, et comme fondé sur des raisons justes qui doivent toujours avoir lieu, portera toujours avec soin, lorsqu'on viendra à le pratiquer, sa propre justification. Et, toutes les fois que le peuple élira ses députés sur des règles et des raisons justes, équitables, incontestables, conformes à la forme originaire du gouvernement, il agira, sans doute, d'une manière sage, judicieuse et conforme à l'intérêt et à la volonté de l'État, quel que soit celui qui leur aura permis ou proposé d'en user de la sorte.